Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Pascale Ryan, chargée de projet à la Direction de la Programmation. Dans le cadre de ces grandes conférences, Bibliothèque et Archives nationales du Québec est heureuse d'accueillir la tenue de la conférence d'aujourd'hui, intitulée « Diego Rivera, sa vie, son œuvre, ses murales », prononcée par Mme Guadalupe Rivera Marin, fille de l'artiste et présidente de la Fondation Diego Rivera. Cette conférence est offerte dans le cadre d'un partenariat entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Consulat général du Mexique à Montréal. Elle sera suivie d'une période de questions. La conférence de Mme Rivera est enregistrée et vous pourrez la entendre en balado-diffusion sur notre portail. J'aimerais également vous aviser que cette conférence exceptionnelle est photographiée. Nous nous excusons donc pour les inconvénients que cela pourrait causer en termes de flash ou de bruit. Par ailleurs, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires. Sans plus tarder, je cède la parole au consul général du Mexique, l'honorable Manuel Cosio, qui nous fait l'honneur de présenter Mme Rivera, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Je pense que sans lunettes. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos los hermanos compatriotas mexicanos que están aquí. Madame Pascale Ryan, is chef de projet, Madame Guadalupe Rivera, chers collègues du corps consulaire, mesdames et messieurs. C'est avec fierté que le consulat général du Mexique présente aujourd'hui à la docteure Guadalupe Rivera Marin, dans ce lieu d'une grande, si grande importance pour la culture et la préservation de la mémoire intellectuelle au Québec. Je remercie la Bibliothèque nationale pour leur chaleureuse réception à l'une des dames les plus distinguées et renommées du Mexique dans les champs de la culture, de l'art, de la politique et de l'activité législative. En présentant la fille de l'un des plus grands artistes que le Mexique produit au XXe siècle, on éprouve des sentiments divers. Le prestige d'un père comme Diego Rivera et sa renommée mondiale se reflètent obligatoirement dans ses descendants directs de plusieurs façons. C'est une responsabilité personnelle, un défi intellectuel et un fait inévitable de la vie. Dans le cas de Guadalupe Rivera, nous pouvons constater, en lisant sa biographie et en suivant sa carrière publique et ses activités professionnelles, que ces trois aspects lui ont permis de servir avec loyauté et talent son pays, d'entreprendre des activités d'une importance particulière intellectuellement et dans la recherche de l'histoire nationale, de faire beaucoup de choses, beaucoup de publications très, très importantes pour le pays, ainsi que de maintenir vive la mémoire de son père et son légat avec la fidélité et la constance d'une fille exceptionnelle. La docteure Rivera vécut, depuis l'intimité familiale, le développement artistique de son père. Il a traité familièrement ses amis et connaissances notables et fut témoin de le début de la figure quasi légendaire du muraliste mexicain, admiré et controversé au Mexique et dans les pays où il vécut à des différentes époques, comme la France, l'Espagne et les États-Unis. On pourrait dire que Guadalupe Rivera a passé une grande partie de sa vie engloutie dans les tourbillons de la personnalité et le génie de son père. A été présente lors de grands moments de sa création artistique et de sa vie politique, et dans une mesure qu'elle nous révélera elle-même dans ses conférences, elle fut témoin des moments de grandeur et de tristesse que le génial muraliste a vécu. Mais par fortune, son développement personnel et professionnel ne s'est pas arrêté là. Elle étudia le droit à l'Université nationale autonome du Mexique à un moment quand il était rare qu'une femme fût avocate. Son intérêt académique l'amena à finaliser sa formation juridique jusqu'à obtenir un doctorat en droit. Cette formation fit que la jeune femme s'intéresse dans les services publics et pendant bien d'années, elle occupa des postes dans le ministère des Finances, des Relations internationales, de l'Intérieur et même à la présidence de la République. Lutteuse infatigable pour les droits de la femme et les travailleurs, elle participa activement dans des conférences internationales d'envergure, comme l'Internationale du Travail à Genève en 1965, celle dédiée à la participation de la femme dans la vie économique de leur pays, au Mexique en 1970, la conférence de la décennie de la femme à Copenhague en 1980 et dans le Fonds international pour la planification familiale à Manille en 1992. Sa considérable activité internationale lui a valu être nommée ambassadrice du Mexique à la FAO à Rome en 1978. Un autre aspect notable de la vie publique riche et variée de Guadalupe Rivera Marín fut son élection comme députée fédérale au Congrès de l'Union en trois occasions et comme sénateur de la République pendant deux sessions législatives du Congrès national. En tant que législatrice, elle eut toujours l'initiative d'améliorer le bien-être des Mexicains et de défendre les intérêts de notre pays. Dans le champ académique, Guadalupe Rivera fut professeure à la Faculté de droit de l'Université et directrice de l'Institut d'études sur la Révolution mexicaine de 1989 à 1997. Elle dirigea aussi le campus du Bajío du Colegio de México, Collège du Mexique, institution d'une excellence reconnue internationalement. Les œuvres publiées par la doctora Rivera inclut des sujets qui couvrent une grande partie de l'histoire du Mexique. Néanmoins, sont remarquables pour leur concours personnel les livres dédiés à la vie et l'œuvre de son père, le grand muraliste Diego Rivera. L'un d'eux, Las fiestas de Diego y Frida, les fêtes de Diego y Frida, fut traduit dans plusieurs langues et a mérité l'éloge de la critique et une grande reconnaissance publique. Ce fut précisément en 1994 quand j'ai eu l'opportunité d'inviter Guadalupe Rivera Marín à l'Institut culturel du Mexique à Washington en tant qu'auteur de Fêtes de Diego et Frida, une narrative esquisse sur la vie sociale et l'art culinaire qu'on savourait chez son père et sa troisième épouse, Frida Kahlo. Depuis lors, j'ai le plaisir de compter avec l'amitié de la doctora Rivera et de partager avec elle des moments de grand plaisir personnel et intellectuel. Je suis sûr qu'aujourd'hui en sera un autre. Je laisse la parole à Guadalupe et je vous souhaite à tous ici présents une merveilleuse et intéressante rencontre avec la vie, l'œuvre et les murales de Diego Rivera. Merci.
Bonjour, madame, monsieur. Je suis bien contente de retourner à Montréal. J'habitais ici il y a 40 ans, quand j'étais un petit comme ça. Non, mais j'habitais comme le représentant du gouvernement de la ville du Mexique à l'Expo. J'avais travaillé à les pavillons du Mexique. Et avec une petite compagnie de personnes qui ont travaillé avec moi. Et nous avons habité à la vieille ville de Montréal. Et ces jours ont été inoubliables pour moi. Mais je n'avais eu la possibilité de rentrer à Montréal jusqu'à deux jours d'après. Et le changement de la ville est vraiment épatant. C'est une ville vraiment pleine de beauté. Et pleine de les choses qui me plaît, une des choses qui me plaît de plus, c'est que c'est très, très amable. C'est une ville ouverte, c'est une ville blanche, on peut dire. Et c'est une ville où on regarde que les personnes qui habitent ici, comme toutes les ici les présents, sont des gens qui ont le plaisir de la vie. On regarde dans la rue comme ils sont, les habitants, ils sont des personnes très contentes, très, très heureuses d'habiter en ville comme celle-ci. Pour moi, c'est avant d'avoir le plaisir d'habiter ici, j'avais une relation personnelle avec la ville parce que mon oncle, Octavio Barrera, beaucoup d'années après, a été le consul mexicain à Montréal. Et ma cousine Patricia, elle est née ici. Comme ça que j'ai commencé à écouter avec Montréal, je ne sais pas, énorme quantité d'années. Et puis, une chose très importante, je m'avais rappelé aujourd'hui. Un jour, ma mère, mon père a parti à Russie, à la URSS. Mon mère était restée chez moi, à notre maison. Je suis très, très petite. Et on venu les personnes de la banque de Montréal. On dit à ma mère, « Madame, vous êtes l'épouse de Diego Rivera ?»« Oui. » Où est Diego Rivera? Non, non, Diego Rivera, mon mari, est très loin, est en Russie. Ma mère n'aime pas de dire ours, elle dit Russie. Et puis, pourquoi? Parce que votre mari a laissé une quantité très importante en or à la banque. Et nous, le gouvernement a changé le patron. Maintenant, nous devrons de changer l'or pour les monnaies actuelles. Si vous ne changez en ce moment les monnaies d'or et monnaie courante, vous perdez tout. Comme ça, ma mère a dit, mon mari a cette quantité d'argent, oui, d'or. Oh, donnez à moi. Et comme ça, quand mon père a retourné à Mexique, ma mère avait inverti cet argent en une maison à trois étages où nous habitons. Dans le premier étage, le plus haut, ma mère avec son mari et moi, et ma sœur. En la seconde, les amis, en le troisième, Frida et Diego. Comme ça, cet argent qu'il a sauvé pour la Banque de Montréal, on savait aussi même notre avis. C'est pour ça que dans ma mémoire, je suis tellement content d'être ici et de pouvoir parler avec vous de les histoires familières. Parce que Montréal, c'est un part très important de la famille, comme vous regardez. Je parlerai du mural de mon père. On va commencer. C'est une relation historique. C'est-à-dire, je commence pour expliquer le premier mural que mon père a peint à Mexique, quand il a retourné de l'Europe. C'est le portrait de mon père, autorretrato, qu'il a fait pour à l'escalier du ministère de l'Éducation. C'est un portrait que mon père prend là-bas les jaquettes d'un architecte, parce qu'il avait étudié de l'architecture en même temps qu'il étudiait de la peinture. Quand les grands édifices du ministère de l'Éducation a été rénové, mon père a travaillé en ça. Comme ça, elle dit qu'elle est un peu architecte aussi même. Et c'est porté, on le nomme Diego l'architecte. Mais il est triste, non? Peut-être parce qu'il est tellement content avec la séparation de ma mère qu'il a occurri dans ce temps-là. Et
retourne au Mexique en 1922. Parce que le gouvernement de Mexique a décidé, après la révolution, d'avoir une éducation publique très libre pour tout le monde. Et comme ça, on fait la réforme éducationnelle. Et le président Álvaro Obregón a pensé que pour un des chemins plus facile pour l'éducation du peuple, c'est vers la peinture murale. Parce que c'est une peinture que tout le monde peut voir. Il n'y a pas de différence sociaux pour les rencontres avec ce peintre. Et c'est libre, c'est fait dans les endroits qui sont les plus connus du peuple. Et comme ça, tout le peuple viendra à les voir. Et la première peinture qu'il a faite, celle-ci, cette peinture a été faite à l'école préparatoire de San Ildefonso. Le nom de la peinture s'appelle La Création. Et la Création est conformée par trois parties. La partie supérieure, que c'est la création de le suprême Dieu. C'est la couronne que la Kabbalah, cet livre sacré des Juifs, décrit comme le Dieu suprême qui créa tout le monde. C'est la couronne de la Kabbalah. Et puis, ils sont les mains de Dieu, le Créateur, qui a décidé de créer tout l'univers. Cette pensée qui est sophistiquée, qui est kabbalistique, change dans la partie inférieure où Diego Rivera peint l'homme comme le produit direct de la création de Dieu. Ils sont les quatre figures de l'Évangile. C'est un peintre, un mural qui après, dans ce côté-ci, il décrit les arts, les beaux-arts. Et dans ce côté, la virtus de la humanité. C'est un mural très, très philosophique, plein de philosophie, et de belles femmes. Les belles femmes qui sont ici sont les plus belles femmes que, dans ce moment, à Mexico, à la ville de Mexico, elles sont les plus fameuses pour sa beauté, par son intelligence ou parce qu'ils sont vraiment bons artistes, comme celle-ci, qui était une chanteuse populaire, et comme celle-ci, qui c'est une belle femme qui a été le modèle des grands peintres de l'époque. Et c'est ici, c'est Naomi Olin, qui fait une femme très, très fameuse par sa grande beauté. Ma mère a été le modèle pour ses figures de la justice et puis pour ses figures de la chanson populaire, parce qu'elle chante de la musique populaire, et même comme la modèle de la femme de Léon, et puis le mystère de la serpente, qui entre les deux ont formé les pêches de l'humanité. José Vasconcelos, le secrétaire d'éducation publique, a vu ce mural, il était très furieux. Et il a dit à mon père, pourquoi est-ce que tu as peint une peinture byzantine, italienne? Ça, ce n'est pas mexicain à tout. Rivera, vous devrez aller à connaître le pays, parce que vous retournez de l'Europe et vous ne connaissez pas le pays, et sa peinture, ce n'est pas mexicain. Comme ça, mon père a fait un voyage en le train. Elle a voyagé dans tous les pays pour vraiment connaître le pays. Parce qu'il avait été à Europe pendant 14 ans. Et il s'est oublié un peu de les paysages. Les seules choses que mon père a recordées pendant le temps qu'il a été habité à Paris et à Madrid, c'est de la révolution. Il est devenu un révolutionnaire à longtemps, à la lontananza, à la lejanía. Mais il se transforme en hombre révolutionnaire. Et c'est le motif qui a mis furioso à Picasso, qui a décidé de le déclarer un peintre révolutionnaire, communiste, horroroso, et que ne voulait pas connaître rien de la peinture de Rivera, parce que c'est le cubisme pur, ce n'est pas le cubisme qu'il en a inventé. Comme ça, son retour à Mexico, depuis de peindre ces murales, c'est un fracas, non? Parce qu'il n'est pas mexicain, n'est pas italien, comme ça. Et commence son voyage à tous les pays. Et le temps de 1920, les pays, la seule communication qui est possible à faire a été vers les trains. Nous avons à ce temps beaucoup de trains qui partent pour tous les pays. Et retour, la première chose qu'il fait, c'est aller à Guanajuato, l'endroit, les places de son naissance. Il part à Guanajuato, il connaît les mineries à Guanajuato, c'est un mine de Guanajuato. Et puis, c'est quand les minières entrent dans la mine. Et puis, le peintre, le travail de l'abattoir de la caña de sucre, c'est ça la caña de sucre, la production de la mélasse. Et puis, la création de ce que nous appelons piloncillo, que c'est la sucre brut, que c'est très populaire pour faire la cuisine mexicaine. Cette histoire du travail, c'est la décoration de les grands murales qui ont la Secrétaire d'Éducation publique. Quand elle retourne à Mexique, il peint ces merveilleuses installations du ministère de l'Éducation et fait le travail divisé en deux sections. Nous avons de l'écu, le patio, un de l'écu s'appelle le patio del trabajo, où il peint toute l'activité économique qui se développe en Mexique dans ce temps-là. Et le second coup, le coup de las fiestas. Comme vous savez, nous Mexicains, nous sommes très très fiesteros. Nous aimons las fiestas. Comme ça, il peintre dans le coup de les fiestas, toutes les fiestas traditionnelles que nous avons et que nous avons un jour pendant les deux mois de l'année. Comme ça, nous savons que nous avons une fête fixe que nous devrons célébrer et nous faisons la préparation pour la fête chaque mois. Chaque mois, nous avons une fête. Et comme ça, ces deux murales, ils sont pour les coûts de le travail. À le même temps qu'il commence à peindre dans le ministère de l'Éducation, le président de Mexique le demande de faire la peinture à l'escalier principal de le Palais National, del Zócalo. Et le Palais National, c'est le grand bâtiment qui c'est la pièce plus importante, plus importante que la cathédrale, dans le Zócalo de la ville du Mexique. On dit à ma père, Diego, vous devrez, le président lui a dit, vous devrez peindre l'histoire du Mexique. Et comme ça, Rivera commence pour peindre l'histoire du Mexique. Cette mural, c'est si vous êtes dans l'escalier, à l'eau de l'escalier, et vous regardez en front le grand mural, ce mural, c'est le peintre à l'endroit de la mur. Et c'est l'histoire préhistorique. Les principaux personnages de ce mural, c'est Quetzalcoatl, avec la serpente à les plumes. C'est la légende que nous avons comme les plus sacrés de l'état préhistorique, parce que dans tous les peuples qui fait la population de Mésoamérique aujourd'hui, dans tous les temps, et tous les peuples, ils sont beaucoup de peuples, tous les peuples, les principaux figures sacres, c'est Quetzalcoatl. Comme ça, Rivera pinta à Quetzalcoatl comme Dieu, et puis le peintre comme gouvernante. Parce qu'on dit que les principaux questions de la culture préhispanique, comme c'est l'écriture, comme c'est l'agriculture, comme c'est le bon vivre, la civilité de la population, c'est Quetzalcoatl qui l'a donné à les peuples préhispaniques. Ici, nous avons même les guerrières qui s'habillent avec les grands plumages et la guerre qui sont entre les tribus les plus civilisées, les moins civilisées. Et puis l'alimentation basique du Mexique, c'est le maïs. Et la musique, qu'ils sont des musicaux. Comme ça, c'est toute la culture préhispanique que Rivera représente ici, de les différents peuples, les guerrières, les pacifiques, les civilisés, les cultivateurs, et tout en torno, tout alrededor de la figure magique de Quetzalcoatl. C'est le temple de Quetzalcoatl avec le symbolisme de Quetzalcoatl. C'est le symbolisme de Quetzalcoatl. Le peintre dans le Palais national, c'est dommage que je n'avais porté pas les images, toute l'histoire du Mexique, d'un côté, l'histoire préhistorique, dans les grands centres, le peintre, l'histoire complète. Jusqu'à le temps de la conquête de los Espagnols, la lutte entre les guerriers préhispaniques et les guerriers espagnols. Et puis la lutte pour la révolution de 1810, pour l'indépendance de l'Espagne, avec les grands héros de cette époque. Et puis la révolution intellectuelle de 1857, que c'est la révolution qui prend le laïcisme pour séparer l'Église de l'État, que c'est une révolution très importante. Parce que la constitution qu'on fait en 1857, c'est la constitution qu'en grande part nous avons maintenant. Comme ça, c'est une constitution vraiment libérale, vraiment prenée d'un grand esprit de libération idéologique. Et puis, de cette révolution de demi-siècle de 1800, nous avons en 1910 la révolution en contre de 30 ans de la tyrannie de Porfirio Díaz. La révolution sociale qui a fait possible par le peuple de Mexico la nouvelle constitution, la pertinence de la terre aux paysans, les lois du travail très progressistes. C'est ça le produit que nous avons eu après la révolution de 1910. Et toute cette histoire, que c'est une grande histoire, et c'est les thématiques de le grand mural de l'escalier, de l'escalier du Palacio Nacional. Et dans ce côté de la gauche, il peint les pensées de la gauche politique. Il peint ce qu'il pense qu'il devra être à les pays dans le futur. Et il peint une industrialisation où les ouvrières sont capables de changer le monde. À ce mural de la gauche, je me rappelle qu'il était le portrait de Carlos Marx et de Lénine. Les gourmands mexicains, en c'est-à-dire 1935, 1940, c'est un gouvernement révolutionnaire, c'est un gouvernement progressiste, que on voit bien, les présidents de ce temps, on voit bien que Rivera peintre cette idéologie, cette idée, c'est parce que c'est un chant, vraiment, un chant à la liberté humaine. Et tout le monde était bien content avec ça, cet homme de la peintre de Rivera. Rivera a été considéré un des trois grands peintres de cet homme, Siqueiros, Rivera et Orozco. Tous les trois, ils sont très, très révolutionnaires. Et le gouvernement accepte cette pensée révolutionnaire. Et c'est en forme avec pour permettre à le peuple vraiment des connaissances. Je me rappelle beaucoup de temps que j'avais été, parce que j'ai allé là-bas pour voir à mon père, combien de paysans, combien d'ouvriers entrent à le Palais National pour voir cette peinture. C'est vrai que c'est l'art public qui c'est un très, très bon chemin pour l'éducation populaire. Pour l'éducation révolutionnaire, socialiste et progressiste. Bien, dans l'école d'agriculture que fondée avec le motif de pour préparer les jeunes ingénieurs à l'échangement dans la propriété de la terre, nous appelons la réforme agraria, la réforme agraire, tous les grandes haciendas. Toutes les grandes propriétés qui ont été en les mains des très, très riches personnes pendant 300 siècles depuis de la conquête espagnole ont été données à les paysans. C'est la réforme agraria. Pour préparer à les jeunes hommes qui devront de faire la réforme agraria, a été créée la Escuela de Agricultura de Chapingo. Chapingo, c'est une petite population qui est très à 30 km de la ville de Mexico. Et dans cette école, il a une chapelle. Et mon père a demandé de peindre là-bas l'histoire de la réforme agraria. Et qu'est-ce que mon père peint? Dans cette figure ici, c'est sa femme, ma mère, Lupe Marie, qu'elle est en attente de ma sœur. Et le mural s'appelle La Tierra Fecundada. La femme représente la terre, était fécondée parce que en attente de la naissance de sa fille, Ruth, ma sœur. Moi, je représente l'air ici. Et puis, nous avons ici Prométhée, la représentation de le feu, l'air, la terre et l'eau. Cette belle femme ici, c'est la représentation de l'eau. Et cette chapelle s'appelle la Capilla de Chapingo. Et maintenant, elle est considérée comme une des plus importantes œuvres de l'art public dans le monde. C'est une reconnaissance que s'est fait il y a deux ou trois années après, mais c'est la grande reconnaissance de la valeur de cette chapelle. On l'appelle aussi même la chapelle Sistina de l'Amérique latine. C'est le portrait de Tina Modotti, qui a été modèle de mon père en ce temps-là. C'est la terre qui commence à produire les fruits. Et puis, un autre panneau à la chapelle de Chapingo, c'est l'homme qui étaient libérés, les paysans qui étaient libérés, qui a été préparé pour diriger la distribution de la terre. C'est le leader qui fait la distribution par lui-même et qui fait la donation de la terre à tous ses compagnons. Et d'autre côté, c'est les minières qui ont changé la pauvreté qu'on avait d'avant pour changer les nouvelles équipes, les nouvelles conditions de travail. En 1929, mon père retourne de l'Union soviétique, depuis d'avoir un problème avec Staline, parce que quand mon père arrivait à Moscou, il a devenu très ami avec les peintres qui sont les contraires, qui sont un mouvement contraire à Staline, en contre de la peinture que Staline voulait imposer. Ils forment un groupe trotskiste à Moscou. Et mon père a travaillé avec ce groupe trotskiste. Il avait été invité pour peindre un grand mural à l'école l'installation de l'Ejército Rojo. Et quand Staline connut que mon père a été le leader de ce groupe de peintres qui n'aiment pas le système soviétique de la peinture, du réalisme soviétique. Quand Staline connaît que mon père est un leader en contre du réalisme soviétique, il demande à Mexique que fait retourner à mon père. Comme ça, mon père retourne à Mexique. C'est quand il rencontre que mon mère s'est séparée de lui et que nous devrons habiter la même maison avec Frida, avec lui. Et en septembre, elle fait le dernier travail à le ministère de l'Éducation. En un des derniers panneaux qu'il peint à le ministère de l'Éducation, c'est-ci. Cette panneau s'appelle la trinchera. Pourquoi? Parce que c'est la préparation de l'ouvrier avec les armes qui ont fabriqué spécialement ici à Mexique, les femmes et les hommes, les révolutionnaires, pour défendre les ouvriers et pour défendre les paysans. Tierra et liberté.
Terre et liberté.
C'est la parole plus importante. Et les leaders, ils sont Frida, très jeune.
Il a 7 ans,
qui est très, très bon ami de Tina Modotti. Et mon père a connu à Frida chez Tina Modotti. Et puis ici c'est Meia, qui était un jeune révolutionnaire cubain, qui a été perçu par le gouvernement de Machado, qui le voulait tuer. Comme ça, Meia s'est un réfugié à Mexique, où travaille le Parti communiste mexicain avec Tina. C'est le fiancé de Tina. Et cet homme qui est ici, c'est l'assassin de Meia. Mon père a été compliqué dans cet assassinat. Il défend à Tina Modotti, qui a été accusé d'être complice de l'assassin. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cet homme, Sanghetti, à partir du jour de la mort de Meia, jamais laissé seul à Tina Modotti. C'est-à-dire qu'à partir de 1929, que cette situation occurre à Mexique, Sanghetti, c'est l'ombre de Tina Modotti. Quand tous les deux partent pour l'Espagne, pour faire la guerre en Espagne, et tout le temps, Sanguetti est avec Tina. En 1940, bien, cette histoire a été en 1929. 1930, cet homme voulait d'assassiner mon père. Mon père connaît cette idée, ou cet projet, c'est un projet de mort, non? Un projet de mort. Il part aux États-Unis. Et il va habiter à San Francisco, Californie. Il a des amis à San Francisco. En San Francisco, il rencontre une ambiance très amable. Et on lui demande de faire de le muralisme là-bas. Peintre dans l'Institut de l'Art de la ville de San Francisco, ce mural-ci, qui s'appelle La création d'un mural. Mais elle se peint comme ça, avec les épaules, les espaldes à le public, et tout le public le critique. On dit que c'est une grosserie, une chose très, 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 très mal, très offensive pour le public. On demandait de le tuer, le mural, mais les gens qui sont progressistes, qui disent non, Rivera, non, il ne tenait, il n'avait pas cette intention, non, le mural c'est excellent. Et comme ça, le mural a été conservé, mais dans le temps de McCarthy, il était couvert. Il était couvert pendant beaucoup d'années. 1970, je voulais le voir. J'avais allé à San Francisco avec le propos de le voir, et ce n'est pas possible. Je l'avais connu beaucoup d'années depuis, quand vers le consulat de Mexico en San Francisco, j'ai obtenu la possibilité de le voir. Mais le mural, l'endroit où se trouve le mural, l'atelier pour les sculptures de l'école de Beaux-Arts. Comme ça, c'est un endroit très sucio, très muy feo. Quand je vais entrer, je suis tellement assombrée parce que je dis, comment possible que cette mural soit ici, en cet endroit aussi désagréable. Et puis les choses qui m'ont fait plus d'impression a été qu'il a sur les murales les constructions de bois, les andamios. Et j'ai pensé, comment c'est possible qu'ici on laisse les andamios pour occulter les murales? Je suis bien fichée. Comme ça, je commence à faire la marche pour devenir jusqu'en front de le mural, et je vois que pas de bois de tablas de madera, que c'est la peinture de vraiment réalistique qu'on voit comme si ils sont vrais, mais c'est la peinture qui était là-bas. C'est un travail de tronc de huile aussi difficile de faire, mais c'est un travail de tellement excellent qu'on ne croyait pas que c'est le travail, que c'est la plante. C'est mon premier rencontre avec la peinture de mon père en San Francisco. Après de ça, mon père est invité à Detroit. Edsel Ford, un des fils de Henry Ford, qui est le plus jeune des fils, ont fait l'invitation pour Rivera pour aller à Detroit, parce qu'on finit l'installation de l'Institut d'art de la ville de Detroit. Et ils ont un endroit, un coup, qui voulait être décoré pour mon père. On demande d'aller à Detroit. Comme ça, en 1931-32, Frida et Diego partent, tous les deux partent à Detroit. C'est à Detroit, ils peintent l'industrie de l'automobile. C'est comme se fait la construction d'un automobile. Mais, par première fois, il fait une supposition de la machine vers la Coatlicue, la grande sculpture préhispanique, la diosa de la tierra, la gran diosa de las serpientes, que c'est une des plus importantes pièces de l'art aztèque. Mon père peint ici une machine comme la supervivencia de la beauté de la sculpture préhispanique. Et puis, il peint dans ce coup les quatre races de le monde. La amarilla, la blanca, la rouge et le noir. Dans l'autre côté. Dans l'autre côté, il peint l'industrie de la pharmacologie. Mais dans ce mural de l'industrie de la pharmacologie, il peint trois figures. Le docteur, le médecin, l'infirmière et les petits enfants qui sont en curation pour faire la curation. Les gens de San Francisco, las hijas, les fils de la Révolution, qui c'est un groupe très, très réactionnaire à cette lame-là, on demande de tuer le mural. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une interprétation de la Trinidad, de la Virgen, de San José et del Niño. Et que c'est une histoire en contre de la religion. Une autre fois, mon père fait la provocation au peuple de Detroit, à la société, et fait la lutte. Mais a été Edsel Ford, et le directeur de l'Institut d'art, qui fait la défense, et cette défense a été tellement importante que l'œuvre n'est pas tuée. En 1986, l'Institut d'art de Detroit a célébré la plus grande exhibition de le mural de Diego Rivera et de toute la collection de dessins qu'il a fait et qu'il a laissé à l'Institut. C'est une exhibition merveilleuse qui, après de Detroit, il est parti à Londres, il a été à Berlin et il a été à la ville du Mexique. Comme ça, on dit à Detroit maintenant que merci à la peintre de Rivera, les gens actuels, les petits enfants, et les gens, la juventud, les jeunes gens, connaissent l'histoire de l'industrialisation de la ville. Que ces murales, ils sont la vraie histoire de la ville. C'est comme on pense que le propos de donner à la peintre murale un caractère historique de la enseignement public, c'est vrai. C'est vrai parce que à Detroit, tous les petites filles, les petits niños, les petits fils, filles, vont aller voir la peinture. C'est un des chemins pour l'enseignement de le passé de la ville et de comment la industrialisation de la ville commencé. Moi, je pense vraiment que l'art public, c'est un excellent chemin pour la pour les connaissances de la gente, de l'histoire des pays. C'est admirable comme nous connaissons les peintres de la Renaissance à l'Italie et quand nous regardons cette peintre, nous savons qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a passé 500, 400 ou 300 ans avant de notre vie. Et c'est ça que la peinture de Rivera à les États-Unis a accompli vraiment le papel, le rôle de l'enseignement. C'est comme ça. Et le 300 peintre que fait Rivera, le 300, en ce temps-là, les années 30, c'est du centre Rockefeller. C'est la reproduction que Rivera a fait à la ville du Mexique. Parce que l'original a été tué par les Rockefeller. Et ceci, le tiraron. Je ne sais pas si vous comprenez, mais sabrez que le mural a été tué. Finalement, la société de New York gagne, les Rockefeller, non la société, gagne, tiran le mural. Quand Rivera retourne à Mexique, le président Cárdenas le dit, Rivera, peintre votre mural à le palais de Beaux-Arts. Il a le mur là-bas, avanti. Comme ça, Rivera peintre, plus ou moins le même mural. Mais pourquoi est-ce que les Rockefeller ont demandé que Rivera quittara la figure de Rockefeller? Parce que Rivera, ici, avait peint le portrait du viejo Rockefeller, de John D. Rockefeller. À un côté, dans le côté de Lénine. Ici. La prensa a demandé comment est possible que Rivera fait cette chose terrible à John D. Rockefeller. C'est mal. C'est terrible. Rivera est un rebelde. Rivera, c'est un homme. Toutes les choses. Et comme ça, la publicité de les périodicos ont demandé de quitter la figure de Lénine. Rockefeller demande de quitter la figure de Lénine. Et mon père a répondu. La liberté de penser et d'action. C'est la première chose que je défends. Je n'accepte pas de quitter rien de mon mural. Mais lui a quitté tout le mural. Léon Pagé, la quantité d'argent qui a été offert, Léon Pagé, qu'est-ce que Rivera a fait avec cet argent? Il le donne à l'école des travailleurs de la nouvelle école de travailleurs de New York, que c'est une école trotskiste où sont préparées les personnes qui continuaient avec la politique trotskiste. Et le peintre pour l'école de nouveaux travailleurs, il peint deux panneaux. Un de ces panneaux, c'est un des plus fameux, c'est le panneau de Rivera. C'est-ci, c'est un cache de sécurité, un grand cache de sécurité d'une banque plein de corps de les ouvriers morts. C'est un ombre très, très dramatique qui, aujourd'hui, c'est un des panneaux plus élevé de la peinture de Rivera, pour tout le contenu politique et social de ce panneau. Faite avec l'argent de les Rockefeller. Finalement. Bien. En 1940, le président Ávila Camacho le demande à Rivera de peindre dans le corridor de le Palais National. C'est le projet, c'est que tout le corridor de le premier étage devrait être couvert pour l'histoire du Mexique, mais vu d'un différent point de vue, dans le point de vue de l'histoire de le peuple de Mexico. Pas de politique, ou non tellement politicien, mais plus didactique. Et mon père commence pour peindre la ville de Tenochtitlan. Cet peintre, c'est vraiment une des plus grandes œuvres d'art de mon père. Pourquoi? Parce que c'est la reproduction véritable de la ville, comme elle se trouve à l'étang de le gouvernement aztèque. C'est le Templo Mayor, Juego de Pelota, los 78 templos, il a eu là-bas, dans cette section, 78 templos, de dédiquer chaque temple à un des différents dieux de les Aztèques. C'est une reproduction incroyable. Regarde l'urbanisation de la ville, avec les canals, les chanels, qui en avait beaucoup, puis la distribution de toutes les maisons avec son petit morceau de terre, la beauté de toute cette création, on pouvait regarder ici. Après de ça, il peint dans le courrier, l'histoire de les différents peuples du Mexique. Celle-ci, c'est le peuple qui habitait à la côte de l'océan Pacifique. C'est la cultivation de le coton, la fabrication de l'étoile, la peinture de les grands codices. C'est le roi qui dirige, c'est la direction de ces peintres. C'est toute une reconnaissance de le haut degré de développement économique qui ont sept peuples. C'est le peuple de Nayarit, de la costa del Pacífico. Le second, c'est le peuple zapoteca, de sept peuples qui habitent à l'état de Guerrero et de Oaxaca, où sont fabriques des articles de l'or et les plumeries. Et c'est la forme en qui on travaille l'or. À Oaxaca, on trouvait les grands tombes zapotecas, plein de magnifique travail de l'or mexicain. Et mon père a peint ici cette culture zapoteca. Finalement, dans le courrier, le dernier mural que mon père a peint a été cet ici. Cet ici, c'est la conquête par le temps qui est le peintre cette peinture. On fait le découvrement de le reste de Cuauhtémoc. Et on fait le recouvrement de le reste de Cortés. Et un groupe d'intellectuels, de scientifiques, ont fait la reconnaissance de le reste de Hernán Cortés. Et on dit que Cortés a été très malade et que de syphilis, comme se dit,
de syphilis. Et mon père a fait la reconstruction, la figure de Cortés, pleine de syphilis. C'est le dernier panneau qu'il a peintré. Mais vous savez ici, le mestissage pour Alvarado, les blondes, avec l'Indien et avec le petit mestizo, le premier mestizo né à Mexique. C'est l'histoire, une histoire très, très dramatique. Regarde à Cortés ici. C'est bien différent de la figure de Cortés qu'on a dans les livres, non? Bien. Et puis l'esclavitude, les Indiens par les monks, par l'Église, pour l'abattement de la nouvelle civilisation espagnole à Mexique. Le plus populaire, on dit, de le mural de mon père, celle-ci. Celle-ci s'appelle un nom très, très long. Le sueño, le rêve d'un dimanche à le parc de la Lamer. Et pourquoi? Parce que ces personnages qui sont ici, ils sont endormis. Ils sont soignants, rêvent toutes les choses qui ont passé dans ce parc. Ce parc a été très, très, très important pour mon père parce que quand la famille de mon père change de la maison de Guanajuato à la ville du Mexique, ils sont habités dans un endroit très, très pauvre. On habitait avec très, très, très pauvres conditions de vie. Parce que mon grand-père a été expulsé de Guanajuato pour raison de la politique. Comme ça, mon père allait en chemin, on caminava, on marche fréquemment à ce parc pour dessiner. Et c'est l'endroit où il va pour dessiner son travail de l'école et toutes les choses. C'est un endroit. Aujourd'hui, c'est belle. C'est un des plus belles endroits de la ville maintenant. Et le musée, qui s'appelle Museo Mural Diego Rivera, est dans cet endroit. Bien, en cet mural, le peintre, l'histoire du Mexique, de nouvelle forme, vers, depuis de la conquête d'Espagne, espagnole. L'Inquisition, parce que c'est le endroit où le Saint-Officio exercia, quemaba a los no creyentes. Aquí está un no creyente. Está Sor Juana Inés de la Cruz, una gran poetisa de cette époque-là, Iturbide, le faux empereur du Mexique, le premier empereur du Mexique. Et puis Benito Juárez, qui fait la libération, que je vous avais parlé d'avant, de la révolution de 1857. Están les hommes qui ont fait la constitution de 1857. L'empereur segundo, Maximiliano y Carlota. Otro falso emperador que quiso ser emperador, c'est pas possible pour lui, c'est Santana. Je m'excuse si je commence à parler espagnol, hein, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié que je devrais parler français. Bien. Comme ça, c'est tous les personnages dans un critère de la Renaissance. Mon père peintre ici la figure de sus tías, les soeurs de sa mère. Et Pida, ici, et mon père, à l'âge de 10 ans, quand il va pour. À ce temps-là, il a vu dans la ville de Mexico les Chanel, les canales. Il existait, les canales. Et mon père allait à faire la pêche
des animaux à ces canaux. Comme ça, dans cette peinture, il a dans ses sacs les grenouilles, les serpents, toutes les choses qu'il trouvait dans les eaux. C'est une figure très, très comique parce que c'est exactement la forme d'habiller à les garçons de cet âge. Ce n'est pas un invento, une fantaisie. C'est la vraie comme il s'habille à cet âge. Comme il s'habillait à cet âge. C'est très, très curieux. Et puis, ici, c'est Posada. Posada a été un homme qui, pendant la révolution de 1910, a eu une très, très grande importance. Il a été un gravateur et populaire qui fait tous les corridos, toutes les chansons mexicaines en contre le gouvernement ont été distribuées à les rues comme propagande politique. Et Posada, il fait le dessin de ces gravados, de ces papiers politiques. Elle est devenue très, très populaire, très, très, très populaire, et mon père a laboré dans son atelier. Elle l'a connue, et c'est une des personnes qui plus admirait de mon père, a été Posada. C'est pour ça qu'il fait de Posada la figure principale, et puis ici, c'est la caractérisation plus importante de Posada. Cette figure-ci s'appelle la Catrina, que c'est la mort, la figure de la mort m'est habillée pour une fête. Parce que à Mexico, nous avons cette contradiction. Certains temps à l'année, nous avons les fêtes de la mort, que c'est une célébration, pas religieuse tellement, mais en religion pleine de content, parce qu'on fait de la cuisine spéciale, de les cadeaux spéciaux, de les golosines spéciaux. C'est la fête de la mort. Et comme ça, cette femme tellement élégante, c'est la mort qui vient pour dire non, la vie c'est gay. C'est belle. Pas de tristesse. Et c'est très, très populaire. Il a devenu maintenant une des figures plus populaires de l'art de mon père. Et ici, dans cette coin, nous sommes la famille. De nouveau, ma mère, qui est ici, ma soeur, qui est la mort de très jeune, dommage, moi-même, et le petit grand-fils de mon père, mon hijo. C'est mon fils. Mon plus âgé de mon fils, c'est ici. Cette forme, on voit comme elle travaille la mort, non? La Catrina. C'est une création vraiment pleine de beauté, si vous voulez. Mais c'est important parce que il peint le symbolisme de Quetzalcoatl. C'est ça, le serpent à plumes. C'est tout un contenu philosophique très, très grand de cette figure. Mais les personnes qui ne les voient avec curiosité n'est pas peut-être que pas entendu le profond symbolisme de cette figure. C'est le symbolisme de la vie, le symbolisme de la gaieté, le symbolisme de la mort, le symbolisme et plus de l'éternité parce que Frida, elle a dans un nom le symbole chino del yin et yang, l'éternité, l'infini. Pour le temps actuel, cette mural c'est le plus préféré, le plus connu de le peuple du Mexique. La reproduction de ce mural, c'est vraiment populaire. Comme ça, le mural de la Secrétaire d'Éducation, on était fermé pendant beaucoup de temps parce qu'il y a un conflit politique maintenant avec les professeurs, avec les gens de l'éducation. Comme ça, le grand bâtiment est fermé. Si on voulait voir le mural, c'est nécessaire d'avoir une permission spéciale. Le Palais National, pour question politique, était fermé aussi même. N'est-ce pas le même endroit où tout le monde pouvait entrer? Si vous voulez entrer, vous devrez de demander, faire l'entrée, etc. Comme ça, l'endroit qui c'est le mural qui est plus connu maintenant, c'est ici. Et finalement, pour terminer avec cette explication que je vous avais fait de le mural de mon père, de quelqu'un de le mural. C'est cette image de Benito Juárez, Ignacio Altamirano et Ignacio Ramírez. Quand mon père a peint cette figure, cette part de le mural, il la mettait ici. Dieu n'existe pas. Et le mural était couvert. A été couvert pendant beaucoup d'années parce que l'arcebispo de Mexique, l'Église a demandé de couvrir le mural. Après beaucoup de temps, quand mon père a retourné de son second voyage à la URSS en 1956, un an après de sa mort, il a changé. Dieu non existe. Il a écrit ici conférences de l'Académie de Lettres. Pourquoi? Parce que cet discours a été écrit par Ignacio Ramírez, le créateur de la Constitution, un de les créateurs de la Constitution de 57. Il écrit ça pour entrer à l'académie la plus importante de l'étape, l'académie intellectuelle. C'est Ignacio Ramírez qui a écrit ça, et c'est mon père qui l'a écrit, et c'est pour cette question que le mural a été couvert. On pouvait de penser pourquoi est-ce que chaque fois mon père a été en contre de la société. Mais de quel parti de la société? De la partie conservateure de la société. Parce que à l'étape que la Secrétaire d'Éducation publique a été ouverte, que le Palacio Nacional a été ouvert, que tout le Chapingo a été ouvert, le peuple de Mexico, tout le temps était en regard du mural de Diego Rivera. Lamentablement, les choses ont changé et la popularité de ce temps du muralisme mexicain a devenu un peu une diminution. Nous avons eu comme fondation Diego Rivera l'année dernière. Nous avons eu un encontre international d'art public, d'art mural. On a venu à Mexico, à la ville de Mexico, ensemble, 26 peintres, hommes et femmes, dans tout le monde, pour discuter qu'est-ce qu'il a passé avec les peintres murales, les peintres les publics. Dans tout le monde, l'art public a été diminué. C'est la même chose dans tous les pays. On peut dire que la publicité de pública, la publicité que se fait de les producteurs industriels, etc., commerciaux, etc., va en contre de l'art mural. Et c'est que nous, comme fondation, nous sommes de partie de les gens qui font la lutte pour avoir les droits de peintre dans les bâtiments publics. Mon père, cette année, il sera 50 ans de sa mort, et nous avons eu une grande satisfaction parce qu'à la ville de Lyon, en France, on va faire la reproduction de le mural de mon père. Comme ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'art de mon père que le muralisme de Rivera il sera à l'Europe. Et ça, c'était très, très important. Pourquoi? Parce que Rivera, il a été bien considéré pour Picasso, parce que Rivera a été un peintre révolutionnaire et qui fait l'art public. On dit le groupe exclusif de la peinture française, on considérait que Rivera n'a pas été un peintre au même niveau. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il est un peintre socialiste, un peintre qui a fait de l'art public, que l'art on devrait être seulement pour les gens de l'intellectualité, les gens de les grandes possibilités économiques. Nous, comme fondation, nous espérons que les choses changent. Il y a eu une chance de le moment qui les murales ils seront à l'Europe actuellement. C'est pour ça, comme on dit, monsieur, mon ami, le consul général de Mexico, c'est pour ça que j'ai fait cet effort pour parler de mon père. Parce que j'ai considéré que c'est très important que non seulement Rivera, mais tous les peintres dans le monde qui ont dédié sa vie pour peindre en l'art populaire, l'art social, ellos, lui, devront de sobrevivir. El arte popular, el muralismo, el arte público, debe de sobrevivir en la historia del arte mundial. Muchísimas gracias.
Merci beaucoup. On vous invite, si vous avez des questions pour Madame Rivera, on a mis des microphones jusqu'à côté. Si vous avez, je sais qu'elle sera ravie de vous informer.
Bonsoir. J'ai envie de vous poser une question.
Oui.
C'est sur la vie de ces deux grands personnages du Mexique, Diego, votre père, et puis Frida. Est-ce que vous pourriez commenter sur leur relation?
Avec quoi?
Entre Diego et Frida, est-ce que vous pourriez commenter la relation de ces deux personnages?
Mais en cette conférence, pour parler de ça. mais je vous dis que c'est une bonne relation. Ce n'est pas vrai que mon père a été le démon et Frida l'ange. Frida a été un certain temps le démon et mon père l'ange. C'est ça. Une autre question? Oui.
J'aimerais savoir si les murales de votre père sont bien entretenues, si elles sont, si on en prend soin, si elles sont en bon état.
Mandé? Ah, si, si. Si, le, tous les murales sont vraiment très, très bien conservés. Et le Gourmenin fait un travail de restauration, de restauration. Et nous avons eu un terrible... tremblement de terre en 1984. L'immeuble de la Secrétaria d'Éducation Pública a été tellement lésionné. Mais le gouvernement a pris la responsabilité de salvar, no? Tous les murales. Ils sont parfaitement bien conservés. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent, mais ils sont tellement bien conservés.
Qué gusto de conocer a la hija de Diego Rivera. Yo quisiera hacer la pregunta, si es que alguna vez han pensado en esto, de cuál sería la razón de que vamos a decir, el enemigo que es Rockefeller y todos los norteamericanos le han dado un trabajo a un pintor socialista, un pintor revolucionario. O sea, ¿cómo es que vamos a decir que el enemigo le pide a un pintor que le haga un trabajo en su tierra?
En ese tiempo, depuis de la Grande Dépression aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis voulait avoir une approximation de tous les peuples du Mexique, des peuples latino-américains. À cette lame-là, 1932, ils sont créés les sociétés de l'art moderne. Y la Société d'Art Moderne a été créée par Rockefeller, par Morgan, por Ford, por todas les grandes fortunes des États-Unis. Et comme ça, le gouvernement a demandé à cette personne qui crée la Société d'Art Moderne pour appuyer la relation avec les peuples d'Amérique latine, parce que c'est nécessaire pour la politique. En ce moment, d'avoir mieux relation pour les commerces qui devraient être mettre en circulation une autre fois. C'est raison d'un critère politique que le président Roosevelt a eu beaucoup de participation en cette projet.
Merci.
De nada.
Bonjour, Madame Rivera, je vous remercie bonjour, de monsieur. Votre présentation. J'ai eu l'occasion souvent d'aller au Mexique et j'ai eu l'occasion d'aller voir au Palais National les fresques de votre père. C'est merveilleux. J'ai eu aussi l'occasion de visiter la maison de Frida Kahlo. Et j'aimerais savoir, est-ce que votre père a toujours conservé l'esprit socialiste ou s'il a changé d'idée un petit peu... avec l'évolution du capitalisme par rapport au socialisme et au communisme. Est-ce que sa pensée a changé au fil du temps ou s'il a toujours conservé cet esprit socialiste?
Non, mon père a conservé cet esprit socialiste.
Ouais, toujours.
Mon père, dans son testament,
oui.
a donné au peuple de Mexico tous les droits de la publication de son œuvre. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ouais, sont un don pour le peuple de Mexico. Mais il a donné aussi même la maison qui est connue comme la Maison Bleue, que c'est la maison où Frida naît, parce que mon père a acheté de le père de Frida sa maison. Et puis mon père l'a donné pour être le musée Frida Kahlo. Je l'avais dit à mon père, je voulais d'habiter là-bas, je vous compre, non, la maison. Il m'a dit, non, il sera un musée pour Frida. Et puis il a créé le Lanahuacalli. Je ne sais pas si vous avez été là-bas.
Non.
C'est un musée fait exclusivement pour la collection archéologique que mon père a réunie, qui sont 504 000 pièces, figures archéologiques qu'il a achetées pendant toute sa vie. Tout cet argent a été gagné et donné à la création de ce musée, Anahuacalli, c'est la maison de l'Anahuac. Et puis, il a mort. J'habitais avec mon père dans la même maison pendant toute ma vie, jusqu'à le moment de sa mort. Et mon père a laissé 2000 pesos mexicains, c'est-à-dire 1000 dollars comme herencia. En la banque. Il est mort dans la pauvreté. Il est mort comme un vrai socialiste. Je pense que mon père n'a pas été un communiste. Pourquoi? Parce que mon père n'a été ami de Staline, n'a été ami du régime communiste. Elle pertenait au Parti communiste, mais entre et sorti du Parti communiste. Jamais a été un commun. Convencido de la politique de Staline. Jamais. Et il est un homme qui lit le Capital, le livre de Marx. Il fait la notation très, 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 très cuidadosamente.
Très soigneusement.
Il le connaît très, très bien. Il admire Lénine. Il est bon ami de Trotsky, mais il déteste Staline. Comme ça, je pense qu'il est mort comme un vrai socialiste.
Je vous remercie.
Merci.
Bonsoir, madame. Je suis ici, pas pour demander une question, mais surtout pour vous remercier d'avoir élu Montréal comme la ville pour ouvrir une nouvelle position devant la position de l'État capitaliste et abolir la prohibition d'imprimer la pensée du peuple sur n'importe quel moyen, parce qu'il a une variété de formes d'expresser la volonté et la conscience de l'homme de la rue et de l'homme qui travaille dans différents moyens. Merci, madame, d'avoir été ici pour faire ça.
Merci.
Ça, c'est un appel pour tous les artistes qui ont un compromis social, qui espèrent que ça continuera dans tout le continent et tout le monde entier. Merci.
Allô, madame. Mon nom est Miguel Quetzalcoatl.
Dernière.
c'est
curieux que ça.
Qu'est-ce que tu penses en ce moment de la situation du Mexique? Tu dis qu'en Mexique, besoin d'expression, comment se dit, libre? Expression libre. En ce moment, parce que je voulais peindre un mural en Mexique, comment est-ce que je pouvais faire en ce moment, Mexique, faire répression? Parce que comme tu travailles comme la députée et sénatrice, qu'est-ce que tu penses de la situation en ce moment au Mexique?
Que penso de la situation en este momento, de la situation politique? Sí, pero si quieres pintar un mural.
Ah, pero ¿cómo podemos hacer expresión libre si existe ¿Cómo, qué pensaría Diego Rivera en este momento si él fue de una creación revolucionaria? ¿Qué pensaría en este momento? Tú como su hija, los valores que te inculcó, ¿cómo ves a México ahora?
Bueno, yo veo que México ahora no es revolucionario, ni aceptaría pintura socialista. Si tú quieres pintar ahora un mural, pues yo creo que debes de escoger un tema religioso y te irá muy bien.
Merci beaucoup.
Buenas.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, que Diego, Diego y Frida, bueno, siempre pareja notable, pero también me acuerdo de una frase en la última pintura de Frida que quizás simbolice lo que tu padre también pensaba. Viva la vida. Gracias. Exacto.